Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure, évidemment pour parler bande dessinée. Mais cette semaine, ben, on va même plus précisément parler Tristan Rouleau. Ça fait un bout de temps qu'on ne lui a pas jasé. Et depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'il y a une quantité assez imposante de séries signées de sa main qui sont arrivées sur le marché. Alors, Tristan Rouleau, évidemment, est scénariste. Il est basé à Montréal. Il est avec nous. Bonjour.
Salut.
Et quand je dis, en fait, quantité imposante de séries, en fait, tu nous as offert, si je fais juste depuis 2018, Aralé avec Denis Rodier, Edge Found avec Philippe Sabat et Patrick Hennaff, Irons avec Luc Brahi, Rome Héritage avec Matteo Guerrero, Le Convoyeur avec Dimitri Armand, Chronique diplomatique avec Christophe Simon, Crypto-Monnaie, Le futur de l'argent avec Djibril Fan Morissette et La forêt du temps avec Matteo Guerrero. J'en oublie même peut-être quelques-uns. Et à travers tout ça, évidemment, de multiples collaborateurs, mais aussi de multiples sujets. En fait, tu nous amènes des réalités de la finance à l'histoire de la Martinique, à un univers post-apocalyptique, à l'histoire de l'Iran, à des univers d'heroic fantasy, aux crypto-monnaies, à l'ingénierie des ponts. Bref, beaucoup, beaucoup de sujets. Et j'ai l'impression qu'en toi, Tristan, on a quelqu'un d'extrêmement curieux qui profite un peu, peut-être un peu de ses charges de scénariste pour aller creuser aussi différents sujets, différentes thématiques.
C'est vrai que c'est quelque chose, oui, qui me passionne. J'adore l'intelligence humaine, en fait, dans tout ce qu'elle est capable de produire. Donc, que ça soit de développer des ponts, que ça soit de créer de l'argent ex nihilo dans le cas de la crypto-monnaie, ouais, c'est toujours fascinant, en fait, de se plonger dans tous les ressorts que peut développer l'humain, soit pour générer du profit, soit pour trouver des solutions à des problèmes qu'il a de communication. Donc oui, ça c'est intéressant. Et puis l'autre aspect, ben, comme tu dis, c'est l'univers imaginaire qui est, je dirais, mon envie première de faire de la bande dessinée vient de là, de raconter des histoires qui me trottaient dans la tête. Et puis voilà, donc je m'épanouis autant, on va dire, dans l'imaginaire pur que dans des sujets plus techniques où là, c'est plus ma curiosité personnelle qui est rassasiée, on va dire.
Oui, puis en fait, quand on prend une série, par exemple, Chronique diplomatique, ça aurait pu pratiquement être aussi à certains points une bande dessinée documentaire. À un moment donné, il y a un choix, puis il y a la nécessité scénaristique qui t'amène vers un récit d'action. Dans le cas de Chronique diplomatique, on est dans quelque chose un peu vintage aussi, esthétique et le reste. Donc, à un moment donné, j'imagine quand on s'intéresse aux réalités historiques, ben, faut mettre un point où on dit, ben, OK, là, voilà, le volet vulgarisé est complété. Maintenant, on essaie de développer une intrigue, on essaie de développer de l'action autour de ça.
C'est ça, parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment dans mon métier de scénariste, c'est l'aspect divertissement. Faire de la BD documentaire pure m'intéresse peu. Ce que je veux, en revanche, c'est bien maîtriser le sujet, aussi bien historiquement que techniquement, pour pouvoir le raconter par le biais de la fiction. C'est ça, moi, qui m'excite le plus. C'est que le lecteur, je fais une histoire humaine. Et en même temps, bah, je lui ouvre un petit peu une petite lucarne là sur un élément, un événement. Par exemple, dans le cas de Chronique diplomatique, c'est le premier coup d'État de la CIA en Iran, donc où ils ont renversé le premier ministre de l'époque, Mossadegh. Et donc là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Donc moi, je maîtrise assez le sujet, pas comme un historien, mais quand même assez profondément. Et puis derrière, bah, je rajoute un petit peu de personnages de romanesque pour que ça soit intéressant et qu'on ne connaisse pas forcément l'issue de ces personnages-là.
Et à travers tout ça, on peut imaginer que l'aspect recherche, par exemple, si on reste un peu là-dessus, autant dans les archives, dans les livres d'histoire et le reste, ça donne des perspectives, ça développe des notes narratives. On parlait de chroniques diplomatiques, bien, il y avait clairement un manque de communication entre la France, l'Angleterre, les États-Unis. Il y avait différents enjeux. Donc, comment on peut aller chercher dans cette dynamique réelle-là quelque chose qui va animer le récit fictif qu'on va développer autour de ces événements-là?
Alors, ce qui était intéressant dans Chronique diplomatique, c'est que c'est justement mes terrains de jeu, parce que c'est une série constituée de tomes indépendants. Donc, le prochain sera en Birmanie, par exemple, l'année suivante, en 54. Et donc, ce qui m'intéressait là, c'est justement d'avoir des théâtres où la France est pas au centre de l'échiquier. En Iran, c'était vraiment clairement l'Angleterre en première ligne, les Américains et les Russes un peu en attente de voir comment les choses allaient évoluer, et puis la France assez passive quelque part. Donc là, ça me permet de jouer avec l'aspect diplomatique français qui va essayer de trouver des zones de force pour développer sa diplomatie, et puis voir comment les choses peuvent échapper un petit peu au contrôle de tous ces agents-là, quoi.
Puis tout ça ben, permet évidemment de creuser l'origine du conflit, de les comprendre, de les saisir et de bâtir, dans le fond, un monde avec des assises qui sont riches, dans le fond, pour le lecteur, puis qui contribuent à la crédibilité du récit fictif qu'on développe autour de ça,
C'est ça,
finalement.
ce qui est intéressant dans le cas du côté de la CIA de 53, c'est que toutes les archives ont été ouvertes du côté CIA, ou en tout cas une immense partie, qui permet d'avoir vraiment quand même une photo très précise des événements. Le MI6 britannique, lui, n'ouvre pas ses archives, donc il a fallu trouver un transcript. J'ai même appris que les Iraniens n'avaient pas mis la main sur ce transcript-là, donc parce que il n'y a pas si longtemps, j'avais été contacté par excuse-moi, le directeur du cabinet de l'ambassade d'Iran à Paris, qui était très intéressant par le livre. J'ai appris plein de choses, même sur ce qui s'est passé dans le détail, et notamment cette histoire de l'assassinat, plus ou moins commandité par les Anglais, en fait, du chef de la police de Téhéran, qui était un allié du premier ministre de l'époque. Et l'assassinat de cette personne-là a fait basculer finalement la police du côté des rivaux du Premier ministre. Donc, en fouillant assez profondément, non seulement c'est divertissant parce que c'est vraiment une vraie affaire d'espionnage, et en même temps, bah, on découvre des réalités qui résonnent encore jusqu'à aujourd'hui parce que les relations entre l'Iran et les États-Unis sont loin d'être apaisées.
Oui, puis en fait, si on revient à ce qu'on disait, ça aurait pu, si on pousse un peu cet angle-là, oups, on se retrouve dans la BD documentaire. À l'inverse, si on profite un peu de la France, justement, qui est peut-être un peu moins présente, ça nous ouvre la porte à créer un personnage, à intégrer une histoire de fiction et à se retrouver un peu dans un Blake et Mortimer diplomatique, là, si
Tout à
on fait
fait,
un
c'est
métissage
exactement ça.
esthétique et de rythme de récit.
Tout à fait. Bah, c'est vraiment ça l'ambition, ouais, d'avoir ce côté vintage qui marche très bien déjà avec le dessin de Christophe, mais aussi avec l'époque. Il a fait un travail de documentation, lui, côté graphique, très très important pour vraiment réussir à retranscrire l'époque, les costumes, les couleurs. Donc on y est vraiment, quoi.
Et dans tout ça, parce que tu parlais aussi, il y a d'autres séries, bon, que ce soit La Forêt du Temps, Convoyeur, où on est vraiment plus dans la fiction pure, ça revient quand même, à mon sens, un peu à la même logique à la construction de monde. Dans le fond, le monde réaliste, il faut le documenter, il faut comprendre les dynamiques, il faut les analyser pour s'en servir comme assise. À l'inverse, quand tu crées un monde fictif, il faut quand même avoir ces éléments-là. C'est juste que là, tu les inventes, il faut que tu t'assures, j'imagine, qu'il y a un ordre logique et qu'il y a une dynamique que le lecteur va pouvoir comprendre et s'approprier aussi.
Bah, tout à fait. Si tu veux, moi, c'est comme pour, par exemple, Dune, qui a eu une adaptation il n'y a pas si longtemps, hein, par Villeneuve. Si tu veux, moi, quand j'avais lu Dune de Frank Herbert à l'époque, j'avais été fasciné par la précision de l'univers décrit. C'est-à-dire, indépendamment de l'intrigue géopolitique qui se déroulait sur cette planète-là, on sentait que l'auteur avait créé son monde et après raconté une intrigue. Et l'intrigue allait elle-même ensuite enrichir le monde. Tu sens que l'auteur, en répondant aux questions qui se posent, crée son propre monde. Mais dès le départ, il y avait quand même une assise très très forte. Et donc, c'est ce que je fais par exemple sur Le Convoyeur, c'est-à-dire de poser des bases très solides, et puis après, et ben, on commence à nous-mêmes découvrir jusqu'où vont nos propres logiques, en fait. Et c'est comme si on repoussait un peu le brouillard de guerre. En faisant avancer nos personnages dans ce petit territoire-là. Dire, bah, qu'est-ce qui peut se passer là, tout en respectant la logique interne du récit, bah, qu'est-ce qu'on peut créer avec ça? Donc, plus les bases sont solides, plus on peut s'amuser, et plus elles sont aussi fermes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'amuser à les casser par souci de facilité, par exemple. On doit les respecter, sinon ça brise un peu la crédibilité que peut avoir le lecteur dans cet univers-là. Donc, il faut les respecter, il faut jouer avec. Et faut en même temps réussir à surprendre le lecteur. Et donc là, c'est tout un ensemble de paramètres qui est très intéressant et très amusant à manipuler.
Et j'imagine qu'à un moment donné, si on prend un pas de recul, l'enjeu, c'est de savoir à partir de quelle idée, à partir de quel monde, à partir de quel cadre, à partir de quelle époque, dans le fond, on est en mesure de créer un récit intéressant. Dans le fond, quel décor, quelle base on offre à ce récit-là, que ce soit historique ou fictif. Et j'imagine que à la longue, depuis les années où tu fais ça, on finit par se développer un instinct de OK, oui, là, il y a un potentiel, on peut développer quelque chose, que ce soit avec l'Iran, que ce soit avec les ponts, que ce soit avec le monde post-apocalyptique que vous faites, dans le fond.
Alors, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que, je sais pas, je dois avoir maintenant écrit une trentaine de BD. Mais c'est quelque chose que j'ai eu assez rapidement, on va dire. De se dire, tiens, ça, je ne le trouve pas en librairie, je ne le trouve pas malgré les millions d'albums qui sortent tous les ans. Eh ben, cette histoire-là, je ne la trouve pas. Donc, cet angle-là, je ne le trouve pas. Et c'est ça qui crée une envie. Et puis, l'autre, je dirais l'autre pendant, c'est la collaboration. C'est-à-dire de rencontrer un dessinateur avec qui ça se passe bien humainement, on s'entend bien, on a envie de raconter quelque chose. Et puis, de trouver le bon fit entre nos univers, la bonne combinaison. Et ça va créer un peu bah, comme quand on fait un gamin, tu mélanges des ADN et ça fait finalement un livre original qui n'aurait pas pu être raconté par d'autres auteurs quelque part.
Oui, un peu comme tu disais tantôt, dans le fond, avec Christophe Simon, donc il y avait quelque chose dans son style, le côté vintage, qui a amené à une fiction historique, donc qui a amené à Chroniques diplomatiques, mais tu n'aurais pas nécessairement eu cette idée-là pour Dimitri Armand ou pour
Exactement,
Matteo, par exemple.
exactement. Par exemple, dans le cas de Christophe, c'est clairement lui qui est arrivé avec cette envie de faire quelque chose dans les années 50. Et en même temps, retrouver un peu la BD d'aventure, tu parlais de Blake et Mortimer, c'était ça un peu l'ambition d'avoir un duo de héros qui allait être un peu bousculé par des événements dans un environnement plus ou moins exotique. Et donc après, je mets moi tout ça dans mon mixeur et je vois son dessin, je vois les années 50, je vois un duo de héros. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va m'intéresser aussi, moi, qui va justement me permettre de découvrir peut-être des choses que j'ai envie de creuser, mais sans avoir eu le temps ou l'opportunité de le faire. Et donc, hop, on arrive, deux diplomates, OK, un peu comme des pompiers envoyés sur des terrains un peu complexes à gérer. Et puis, bah, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, tu tombes sur les 53, tu fais quand même, c'est le premier coup d'État extérieur des États-Unis, c'est intéressant à raconter même. Parce qu'on pense toujours à l'histoire du Shah d'Iran et de Khomeini, mais on connaît moins l'histoire de Mossadegh. Donc, tiens, ça peut être intéressant de le raconter, ça quand même. Et donc, voilà, en mettant tous ces éléments un petit peu ensemble, après, on retombe, je dirais, sur plus la mécanique propre au scénario, c'est-à-dire. Une introduction, un développement, quels sont les enjeux, quels sont les sous-intrigues. Et bon, bah, ça, je dirais, c'est plus la technique, c'est plus l'aspect métier, on va dire. Mais tout ce qui est au départ, c'est-à-dire toutes les envies, ça, c'est beaucoup créé par la collaboration avec le dessinateur avec qui je vais travailler sur ce projet-là, par exemple.
Puis on revient un peu à cette volonté aussi de distinguer, d'amener des éléments, des intrigues, des décors, des contextes qu'on ne retrouve pas nécessairement. Et quand on regarde, par exemple, Hedge Fund, on pourrait penser, bon, on est dans un thriller financier, bon, c'est du Largo Winch un peu, c'est du VRS, on est dans le même type d'univers, mais à travers cette série-là, et là, on revient à ce qu'on parlait de vulgarisation, on se retrouve dans une dynamique de crise financière, on se retrouve dans des méthodes économiques. Il y a Philippe Sabat qui est avec vous, qui vous accompagne un peu pour comprendre tout ça. Et là, subitement, on se retrouve avec un récit d'action, mais qui est plus ancré dans une finance réelle. Et j'imagine que dans ce cas-ci, comme scénariste, ça veut dire aussi qu'à un certain degré, il faut que tu réussisses à accompagner le lecteur pour comprendre ce système-là, pour qu'en plus, ensuite, il puisse réagir au détour scénaristique que tu vas le mettre de l'avant au fil de quoi ça tombe. Donc, on va quand même assez loin, même on en apprend à travers l'action, mais faut avoir cet équilibre-là aussi.
Eh ben, c'est exactement, c'est comme une recette en fait, où tu mets plein d'éléments dedans, un certain nombre, tu ne peux pas tout mettre non plus. C'est sûr que dans Hedge Fund, par exemple, ce qu'on a coupé le plus, c'est l'aspect action. Parce que si l'action, si on avait mis l'accent là-dessus, ça aurait été, bah, il y aurait eu moins d'explications, moins de vulgarisation sur la finance. Or, c'était vraiment, moi, mon objectif sur Hedge Fund, c'était, et celui de Patrick aussi, et de mon collaborateur Philippe, c'était vraiment d'expliquer la finance internationale et comment on était arrivé à la crise des subprimes. C'était là-dessus qu'on était parti. On était quelques années plus tard, donc on avait déjà la bonne vision des choses. Et d'expliquer aux gens, voilà, comment la finance, qui vous semble si loin, comme en Wall Street, qui vous semble si loin, va finalement réussir à vous impacter dans votre vie de tous les jours. Donc, soyez, en lisant Hedge Fund, soyez armés pour prévoir la prochaine et pas vous embarquer dans des choses qui vous pourriez regretter plus tard. Donc voilà, l'objectif, c'était la vulgarisation de la finance internationale et comment elle peut vous impacter. Et ensuite, moi, j'avais lu Largo Winch et j'avais été bluffé par la capacité de Jean Van Hamme d'expliquer dans les premiers tomes une OPA. comment expliquer une OPA en bande dessinée dans une BD d'action. Et il avait fait ça très très bien. Je me dis, bah, donc il y a peut-être moyen d'aller encore plus loin et d'expliquer quelque chose de plus technique qu'une OPA. D'où Edge Fund, où vraiment on est. Et ce bouquin, j'ai la bonne surprise de voir qu'il est régulièrement conseillé aux étudiants en finance, par exemple, ou en économie à partir de 18 ans, on va dire.
Parce que dans le fond, tu as réussi à trouver un peu avec l'équipe de l'album, dans le fond, vous avez réussi à trouver l'équilibre où on est capable d'amener assez d'informations pour que le lecteur capte, maîtrise suffisamment les enjeux pour après ça embarquer dans le récit, pour après ça suivre les personnages, puis découvrir un peu la révolution, puis comprendre, dans le fond, l'incidence des actions qu'eux vont faire
C'est
dans
ça,
cet
c'est-à-dire que
univers-là.
ça reste comme un thriller. Quand je dis on a enlevé l'aspect action, c'est on enlève plutôt le côté poursuite, course de voiture et compagnie. Ça, voilà, l'Argo Winch l'a fait très bien. Donc, nous, on avait besoin de plus d'espace pour raconter un peu les dessous de la finance. On est plus dans quelque chose de comme Margin Call, par exemple, donc avec beaucoup de scènes de discussion. Ça n'empêche pas qu'il y a de la tension parce que les gens, nos personnages jouent gros à chaque fois. Donc, émotionnellement, si le travail est bien fait, le lecteur doit connecter avec les personnages qu'on raconte et se sentir attaché à eux et même s'ils sont désagréables et même s'ils sont des traîtres. Un peu comme il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une série qui s'appelle Succession, je ne sais pas si tu as vu ça, avec une famille, ils sont tous plus pourris les uns que les autres. Et mine de rien, on s'attache quand même parce que les personnages sont très logiques et très bien définis. Donc, même si c'est les pires ordures du monde, quand c'est bien fait, ça passe, quoi.
Oui, puis en fait, ça ouvre des portes à enrichir, j'ai l'impression, l'expérience de lecture, parce que finalement, on se retrouve, oui, dans une série d'actions, oui, dans un thriller, mais on va au-delà de ça. Et encore là, comme lecteur, on est plus impliqué. Tu regardes, en fait, si je fais du Coq à l'âne, mais avec Rome Héritage, c'est la même chose, où on peut aborder plusieurs sujets à travers, dans le fond, le prisme du Rome au départ, mais nécessairement, le Rome est tellement intrinsèque à l'évolution de l'histoire de la Martinique. Alors, oups, finalement, on arrive à l'histoire de la Martinique, on arrive à des thématiques sociales, on parle de servage, on parle de racisme, etc. Ce qu'on ne s'attendrait pas nécessairement au départ en regardant juste l'idée d'une série sur le Rhum en Martinique, dans le fond.
Bah, c'est ça, l'idée, c'est vraiment aussi d'être fidèle au contexte de l'époque. Sur le Rhum, par exemple, ça devient assez compliqué aujourd'hui, on va dire, de traiter des sujets historiques avec des charges émotionnelles assez lourdes, comme l'esclavage des Noirs, particulièrement Martinique, qui est un sujet extrêmement dur, avec une violence incroyable. Moi, donc, je suis allé en Martinique, j'ai passé 3 semaines pour fouiller dans les archives de différentes fondations, et notamment la Fondation Clément. Et c'était fascinant parce que tu voyais, il y avait des mécaniques de cour, les esclaves pouvaient plus ou moins porter plainte, mais jamais ça marchait. Enfin, finalement, ça finissait toujours mal. Donc, il n'y avait pas de justice à l'époque. Et notamment, il y a eu cette histoire de Code Noir de Colbert qui a essayé de faire quelque chose, mais de toute façon, c'était tellement loin de la Martinique, tellement loin des îles, que, il n'y a pas eu un vrai impact sur le traitement des esclaves. Donc tout ça, c'est des sujets très sensibles qu'il faut traiter avec beaucoup de soin et beaucoup de précision, sans non plus se laisser dominer par l'émotion et rester fidèle aux faits. Et donc voilà, moi je fais un gros travail justement pour pas dire de bêtises, mais pas non plus plier, je dirais, face à une logique émotionnelle un peu dans l'époque qui me déplaît. Donc voilà, moi je veux rester sur les faits, l'histoire pure, et raconter une histoire avec de l'émotion, mais pas jouer avec les faits. Voilà.
Et justement, dans quelle mesure, peut-être, quand tu te lances dans une série historique, par exemple, dans quelle mesure tu as déjà une idée claire de ton scénario ou de où tu aimerais l'amener avant la recherche historique, ou est-ce que c'est vraiment la recherche documentaire, comme par exemple tes 3 semaines en Martinique, comme par exemple on fouille dans les archives d'Orsay pour Chroniques diplomatiques, à quel point cette recherche-là va justement t'aider à tisser ton intrigue ou à la développer de façon peut-être plus concrète?
Alors, c'est vraiment une discussion. C'est vraiment une discussion entre, tiens, quelle va être assez vite arrive une sorte d'angle sur comment j'ai envie de traiter ce sujet-là. J'ai pas forcément encore ma conclusion. J'ai pas forcément encore le chemin que je vais prendre. C'est là, en commençant à fouiller, que je commence à découvrir la réalité de l'époque. Et en découvrant la réalité de l'époque, certains éléments vont me paraître extrêmement importants à traiter et vont peut-être conduire le scénario dans une direction que j'aurais pas imaginé au début. Au début, on arrive avec beaucoup de j'ai une culture générale sur le sujet, mais peut-être un peu flou, ou peut-être, je sais pas, partielle. Donc voilà, et finalement, toute cette documentation vient colorer aussi bien le récit que son cheminement, en fait. Donc c'est une discussion entre la recherche, l'envie de dire quelque chose, et puis aussi l'évolution de nos personnages, qui vont faire qu'on va découvrir certaines choses. Je peux pas tout dire, je peux pas faire une Bible en album de 54 pages, je peux pas faire une somme sur la Martinique au XVIIe siècle, mais je peux faire des focus sur certains éléments, et cela, par contre, les traiter de manière assez précise, ouais.
Et j'imagine que l'expérience, dans le fond, du réel, cette méthode-là, cette approche de recherche-là, ce dialogue que tu fais entre les éléments réels puis l'aspect créatif du récit, quand on se retrouve dans le convoyeur ou dans la forêt du temps, est-ce que ça devient soit libérateur, justement, de sortir un peu des obligations qu'engendre le réel pour justement bâtir quelque chose qui est complètement adapté à l'intrigue, ou est-ce qu'au contraire, ça devient vertigineux parce que tu as conscience, justement, de la richesse des documentations que tu es capable de trouver quand tu t'intéresses au réel?
Alors, si tu veux, les deux choses sont très proches pour moi. Traiter de l'historique ou traiter de la fiction, dans ma méthode de travail, c'est relativement similaire parce que même si les difficultés ne sont pas les mêmes, d'un côté, par exemple, quand je travaille sur le Rhum, sur Hedge Fund, sur les chroniques diplomatiques, donc il y a cette masse immense de documents, immense. C'est-à-dire que je cherche une aiguille dans une botte de foin à chaque fois. Quel est l'élément historique qui va faire sens, la petite anecdote, le petit personnage secondaire qui va tout à coup prendre de l'envergure parce qu'il est à un moment clé de l'intrigue et va faire pivoter le récit. Donc voilà, je suis comme un détective, là, je fourmouche partout, je soulève des pierres, je regarde ce qu'il y a en dessous, etc. Donc ça, c'est l'aspect historique. Pareil, donc foisonnement de documents, foisonnement de pistes à explorer. Et il faut choisir le meilleur chemin, on va dire, qui va être celui du récit. Dans le cadre d'un récit plus imaginaire, là, c'est justement, on est limité par sa seule imagination. Donc, bon, bah, faut en avoir, c'est sûr, mais il faut faire un travail. Moi, je peux passer des journées à me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Tout peut être raconté. Donc, et encore une fois, il faut trouver cette espèce de piste dans la jungle de tout ce qu'on pourrait raconter. Et c'est, je dirais, l'essence de la collaboration entre scénariste et dessinateur. Un dessinateur, quand il travaille seul, souvent, va avoir tendance à vouloir assez vite partir sur le dessin. Parce que on a l'impression de perdre du temps sinon. Alors que bah, maintenant, mon métier, c'est. Non, mon métier, c'est de. Ce temps-là, c'est là, c'est ma part, en fait. C'est d'évaluer toutes les directions possibles et de choisir le meilleur chemin. Et même si ça prend 3 semaines, 1 mois, 2 mois avant que je commence à écrire une ligne, bah, voilà, j'ai besoin de faire tout ce terreau créatif. Et puis, une fois qu'il est là, eh ben, on trace un chemin là-dedans, quoi.
Et puis en fait, l'idée de départ devient essentielle aussi parce qu'elle fait débouler plein d'autres choses. Quand on parle par exemple du convoyeur, si on reste dans l'invention, ben, l'idée de dire, ben, OK, le mal vient du métal. D'un côté, dans le fond, on a trouvé une approche, un apocalypse, dans le fond, qui n'a pas été galvaudé, qui n'a pas été tant utilisé. Alors qu'au contraire, en fait, une fois qu'on lit, on se dit, mon Dieu, ben, c'est évident, pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est tellement utile comme moteur narratif, ça oriente le décor, ça crée des enjeux sur le transport et le reste, ça ouvre même la porte à des mutations. Donc, pour le dessinateur, d'avoir eu la bonne piste, dans le fond, ouvre des postes, des pistes graphiques extrêmement intéressantes par après. Donc, j'imagine que sur un sujet comme ça, à un moment donné, il y a un dialogue aussi qui finit par s'installer pour essayer de voir, mais comment on pourrait l'exprimer, qu'est-ce que ça va engendrer dans la construction des assises de cet univers-là, par exemple.
Oui, bah c'est sûr que, bah, en fait, suivant les dessinateurs avec qui je travaille, je vois aussi qu'ils ont des zones de force, des endroits où ils sont peut-être un peu moins, ça les concerne moins. Donc, par exemple, avec Dimitri, au début, on devait partir sur un projet beaucoup plus anticipation, qui est un scénar que j'ai toujours en tête et que je veux faire un jour. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé le bon partenaire pour ce sujet-là, parce qu'il faut un dessin à la fois très précis, mais en même temps, quelqu'un qui sache projeter de l'architecture dans une centaine d'années, donc quelqu'un qui soit très intéressé par ça, mais aussi par la mode, à quoi ressemblera la mode dans une centaine d'années. Donc, quelqu'un qui s'investisse aussi sur tout ce caractère design, ce design d'univers, avant même qu'on ait écrit une ligne d'intrigue et de personnage. Donc, c'est très, très exigeant. Dans Le Convoyeur, l'idée de départ, c'est-à-dire d'avoir un fer attaqué par une bactérie, donc le fer qui disparaît en gros de notre civilisation, ça, quand on a une idée comme ça qui nous heurte, on fait oh, hop, 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 ça, c'est intéressant. Tout de suite, on le sent, quoi. Et à partir de là, on commence à tirer le fil. Et on tire, et on tire, et on tire, et on voit jusqu'où ça va. Puis, oh, 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 c'est intéressant. Jusqu'au moment où tu arrives au fer, hey, mais il y a du fer dans nos cellules. S'il est affecté, ah, du coup, ça peut créer des mutations. Tiens, qu'il y a un élément fun qui va rajouter au plaisir de Dimitri de dessiner justement des personnages vraiment avec des sales gueules et un univers tout en mutation. C'est voilà, il y a un challenge graphique qui va lui l'exciter aussi. Donc tout ça, voilà, là on sait qu'on a chopé une bonne idée, quoi. Quand ça arrive, on est assez content. Ouais.
Et j'imagine que dans un contexte de scénarisation ensuite, ben, d'un côté, il y a des créatures, des mutations, par exemple, qui vont peut-être plus déterminer des caractères ou des éléments importants pour les personnages, donc on va être plus précis. Ou à l'inverse, il y a des créatures ou d'autres mutants qu'on va être un peu plus lousse, qu'on va laisser, dans le fond, le dessinateur les interpréter, voire même les développer là, entre les mutants et les êtres animaux, les êtres végétaux aussi que vous développez là-dedans.
Oui, alors justement, ça c'est une des grandes forces de la bande dessinée et de fait de travailler en duo, c'est qu'on est surpris. Et par exemple, dans le tome 3, Dimitri, à un moment, je dis, voilà, il y a une scène, ils arrivent dans une sorte de moulin reconverti un peu en taverne, et il y a une petite famille là-dedans, ils sont un peu mutants. Et il m'a fait une famille tellement charismatique, qui a tellement de caractère, que je me suis dit, je peux pas les laisser partir si vite. Ils étaient censés être juste un élément de décor. Et finalement, tu dis, non, j'ai envie de les réutiliser. Donc, ils reviennent dans le tome 4. Parce que voilà, Dimitri s'en est emparé et on a créé des personnages tellement vrais et qui comment dire s'insèrent tellement bien dans le récit et dans cet univers-là que tu dis ben non, eux ils sont tellement là, ben il faut qu'ils y restent, quoi.
C'est un peu, en fait, il y a une dynamique de jazz presque, en fait, où
tout à fait.
Tu lances des choses, lui te lance des choses, vous dialoguez, finalement vous vous laissez influencer mutuellement, emporter mutuellement, donc ça veut dire qu'il faut rapidement placer une dynamique de travail, une dynamique de plaisir qui va appeler à cette créativité-là, appeler à ces petites explosions-là ou au plaisir de se surprendre mutuellement, dans le fond.
Exactement. Et en fait, c'est la chance des séries. Parce que sur une série, on peut apprendre à se connaître. Et donc, sur un tome 1, le tome 1 du Convoyeur, par exemple, a été fait de manière, je dirais, assez technique. On ne se connaissait pas encore très bien avec Dimitri, on s'était vu plusieurs fois, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc, il a fallu trouver le langage commun, aussi bien en termes de ce dont lui avait besoin comme structure de scénario pour s'épanouir. Moi, ce dont j'avais besoin pour justement pouvoir rebondir et enrichir l'univers. Donc, le tome 1, on la joue justement comme des musiciens qui ont une technique chacun, mais qui doivent réussir à collaborer. Et puis à partir du tome 2, ça y est, la musique commence à avoir sa propre pulsation. Et au tome 3, ça y est, on commence à être super à l'aise et à tenter d'expérimenter vraiment des choses et avoir du plaisir à surprendre l'autre, voire à le mettre peut-être en difficulté volontairement pour voir comment il va réagir à ça et voir comment la réponse et comment la balle est renvoyée. Et là, il y a de l'accélération, il y a beaucoup de plaisir à ce moment-là.
Et comme scénariste, Tristan Rouleau, on se retrouve un peu à faire cette improvisation-là ou à faire cette création-là aussi à différentes étapes simultanément au bout du compte, parce que d'un côté, par exemple, sur Le Convoyeur, Dimitri peut être rendu au niveau du dessin, alors que tu es rendu à scénariser peut-être un deuxième tome de La Forêt du Temps pendant que tu penses à une idée d'une nouvelle histoire, etc. Donc, dans le fond, toi, tu gères plusieurs relations, plusieurs dynamiques, plusieurs histoires un peu côte à côte. J'imagine que ça fait partie du plaisir de scénariser, dans le fond, pas être complètement ancré dans un univers pendant une durée très, très prolongée qui se compte en années, d'y être peut-être plus sur des semaines, des mois par tome, dans le fond.
Ben exactement, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aurais pas pu être dessinateur de bande dessinée, non seulement parce que je manque cruellement de talent de dessin, donc ça c'est déjà une première chose, mais c'est surtout que j'ai envie de trop de raconter d'histoire. J'ai trop d'histoires à raconter. Et avec une seule histoire par an et demi, c'est trop court. Et c'est une des grandes frustrations des dessinateurs, ça, de dire, eux aussi, ils ont plein d'idées ou plein d'envie de collaboration. Et non, il y a un temps de dessin pour faire une bande dessinée qui est incompressible. Donc, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et donc, une planche de BD franco-belge, ça prend 4-5 jours à faire. Point barre, quoi. Tu peux pas aller plus vite que ça, vraiment, sauf à sacrifier la qualité du dessin. Donc, ouais, avoir un dessin un peu plus immédiat, plus naïf, plus simple. Donc, alors que c'est vrai que la chance qu'on a en tant que scénariste, c'est d'avoir Bon, moi, je travaille, j'essaie de faire 3 à 4 albums par an, en général. Une année, j'ai dû en faire 5 et c'était trop. J'ai senti que là, j'avais fini brûlé. Non, c'était trop. Mais il faut, là, voilà, je suis bien à 3 scénars par an, c'est-à-dire 4 mois pour écrire un scénario. Je suis bien, je me sens bien. Quand je commence à patiner sur un scénario parce que manque d'idées, manque de solutions, des fois, on arrive dans une impasse. On a mis nos personnages dans une situation tellement, incontrôlable ou on ne sait pas comment ils vont réussir à s'en sortir. Et puis les jours passent et on n'y arrive pas. On n'arrive pas, ils sont coincés. Là, c'est bien de pouvoir poser le dossier, de le refermer, de dire OK, je reviendrai plus tard. Et puis hop, on passe sur un autre projet, un autre scénario qui est lui aussi était peut-être dans une impasse à tel moment. Mais le cerveau a fait son travail en quelques jours, quelques semaines. Et hop, une nouvelle piste s'ouvre. Des fois, un petit retour en arrière, une piste qu'on n'avait pas vue, et nous voilà repartis pour la suite de l'aventure, quoi.
Même en regardant aussi les thématiques, on parlait tantôt, par exemple, pour Homme héritage du racisme et le reste, pour Le Convoyeur, on pourrait mentionner la notion même d'humanité, par exemple, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de dilemmes qui sont mis de l'avant ou qui accompagnent un peu ces situations-là. Et donc, ce qui fait qu'on n'est pas uniquement dans la réaction physique, mais on est dans la réaction psychologique. Et je pense qu'on est un autre bon exemple. Donc, pourquoi on va faire telle ou telle action. Donc, j'imagine que pour toi, comme scénariste, tu te mets un peu dans la tête de tes différents personnages et tu te dis, ben OK, je ne cherche pas à ce qu'ils se fassent le bon choix, mais le choix qu'ils feraient à cette étape-là de leur développement, d'essayer d'anticiper un peu ces éléments-là. Puis, c'est à partir de ces réflexions-là, j'imagine que tranquillement, tu réussis à trouver la piste, autant pour tes héros que pour tes vilains aussi, parce que j'imagine que l'intérêt des vilains, c'est d'avoir l'impression d'être sur le bon côté de la morale aussi. Tout le monde se sent un peu le héros de sa propre histoire, dans le
Ah ben
fond.
moi c'est je pense que là tu as mis le doigt sur des thématiques vraiment qui me sont très chères, c'est le dilemme, c'est-à-dire le prix à payer pour une décision et pour l'action quoi. Et ça c'est quelque chose que je mets en scène, je dirais quasiment dans tous mes bouquins parce que ça revient, c'est quelque chose qui me hante, c'est toute action entraîne un prix à payer, un sacrifice. Et on voudrait être toujours du bon côté et avoir le moins mal possible, mais je crois que fondamentalement, toute action entraîne de la souffrance. Souffrance chez les autres, souffrance chez soi-même. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec la souffrance en tant qu'humain. Je crois que c'est ce qui nous caractérise le plus, en fait, de vivre dans la souffrance, quoi. Enfin, je pense pas être le premier à le dire, hein, mais je pense qu'on a peut-être aujourd'hui tendance à l'oublier et à estimer que la vie devrait être, en fait, une vie sans souffrance. Je crois que c'est un... Non, je pense qu'il faut plutôt embrasser la souffrance. Voilà. C'est pas un message d'espoir, mais plutôt, voilà, c'est une dynamique de vie. C'est un peu le bushido, des Japonais, quoi. C'est si t'as plus peur de la mort, tu peux enfin commencer à t'épanouir, quoi. Et donc, oui, le dilemme et l'autre chose qui va un peu de pair, effectivement, c'est les valeurs morales où chacun, je pense, essaye d'être le héros de sa propre histoire. Donc, et valider ses choix. En disant bah oui mais je les ai faits de toute façon parce qu'en fait je suis quelqu'un de bien et donc c'est pour ça que j'ai fait chez soi ces choix alors que l'adversaire pourrait avoir exactement la même logique quoi. Donc moi j'aime bien essayer de me placer au centre et puis démasquer nos petites impostures, ça c'est mon petit plaisir personnel quoi.
Oui, puis ça force le lecteur à se positionner aussi. Tu sais, quitte à avoir un certain malaise par rapport à ce qui est fait, mais dans le fond, on reçoit, on réfléchit, on cherche à comprendre aussi. Et si tes personnages, ton récit, ton univers est bien ancré, bien normalement, le lecteur va pouvoir avoir les repères pour comprendre pourquoi le personnage fait ce qu'il fait
Ah
aussi.
oui, moi d'écrire, c'est-à-dire que le personnage par exemple du traître qui est toujours conspué dans toutes les œuvres hollywoodiennes, le traître c'est méchant. Moi ce qui m'intéressait dans Hedge Fund, c'est de montrer justement à quel point en fait le traître lui aussi, il a toute sa liste de bonnes raisons pour agir comme il l'a fait et puis finalement bah, quand tu expliques vraiment son parcours psychologique, eh ben on pourrait presque ne pas lui en vouloir. Et ça, finalement, je trouve ça assez amusant de comme ça renverser la vapeur et puis proposer un petit miroir aussi au lecteur en lui disant, bon, bah, à ce moment-là, essaye de faire le mieux que tu peux. Parce que finalement, voilà, la vie, elle est compliquée. On est tous. Donc, voilà, moi, ce qui m'ennuie aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça aussi que j'écris beaucoup d'histoires de ce type-là, c'est, je trouve qu'on arrive dans une cristallisation des valeurs bien contre mal. Et voilà, il faut toujours se positionner d'un côté ou de l'autre. Ah, ça me plaît pas, ça me va pas. Je trouve que tout ça est beaucoup trop complexe pour avoir une dichotomie aussi marqué qu'aujourd'hui entre les bonnes valeurs, les mauvaises valeurs. Tout est beaucoup trop compliqué.
Est-ce que c'est un peu pour ça? Parce que quand je regardais un peu justement les BD que tu nous as offert ces dernières années, puis pour la plupart, si ce n'est pas des héros relativement taciturnes comme Iron, ce qui est limite un anti-héros aussi, mais des anti-héros purs et durs comme dans Hedge Fund, comme dans Convoyeur, je pense que de façon générale, il y a peut-être le genre de chronique diplomatique qui, lui, est vraiment lumineux, qui se distingue peut-être un peu des autres héros, où je me dis, OK, peut-être que là, Tristan Rouleau avait envie d'aller explorer complètement autre chose, parce que sinon, souvent, ça va être des personnages peut-être un peu plus sombres, peut-être un peu plus anti-héros, qui vont être au cœur, de tes histoires.
Bah, justement, il y avait, j'irais, j'ai eu une grosse tentation, et c'est ce qui m'a donné au début envie de faire de la BD, c'était déconstruire justement le mythe du héros auquel à un moment j'ai fini par ne plus croire. C'est-à-dire, j'ai été biberonné moi aussi à tout ce que nous a proposé de héros positifs le cinéma hollywoodien par exemple, avec ces John McClane capables de renverser la vapeur, mus par des bonnes valeurs familiales, etc. Et je suis arrivé à un moment en disant, mais en fait tout ça c'est vraiment de la poudre aux yeux, c'est totalement faux, ça n'a pas de connexion avec la réalité. Et donc j'ai voulu justement, même en commençant par Goblins, hein, en disant voilà, si on met la caméra au niveau d'un petit pays ravagé par ses soi-disant héros, on s'aperçoit qu'en fait, ces héros font souffrir des gens qui n'ont rien demandé non plus, quoi. Et donc, voilà, donc ça a été un peu le processus. Et puis, arriver sur des anti-héros dans le sens des gens qui n'ont pas le bien commun comme objectif, mais plutôt leur bien personnel, leur égoïsme, en fait. Et je pense que c'est ça qui caractérise peut-être l'anti-héros, c'est son égoïsme. Il ne vise pas la lumière pour tout le monde, quoi. Il essaie juste de faire son chemin. Et je pense que c'est beaucoup plus proche de ce qu'est l'humain que la tentation du héros. Donc voilà, j'aimerais bien balayer cette tentation du héros. Et ça ne veut pas dire que le héros ou l'anti-héros ne puisse pas faire de bonnes actions, justement. Voilà, c'est un peu ça. Tu peux être un anti-héros et faire des bonnes actions, comme être un vrai héros et finalement faire des choses absolument horribles. Donc voilà, j'essaye de mixer un peu les deux et puis de dire les gentils ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Et puis même, je pense, pour le lecteur, c'est intéressant de se dire, de ne pas savoir en fait où va aller l'histoire. Et quel personnage que je vais présenter comme le héros, je crois que c'est le tome 2 du Convoyeur, où on voit un héros qui va défendre un village et qui finit la tête sur une pique, parce qu'en fait, c'est pas lui le héros de l'histoire. Donc c'est quelqu'un d'autre. Et ça a été un résistant, mais qui a perdu lui. Et je comprends que ça puisse générer une sorte de malaise ou de. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est sûr que quand tu vas lire une de mes BD, si je fais bien mon taf, tu vas pas savoir où je vais t'emmener. Et donc, attends-toi, voilà, accroche-toi à ton siège parce que ça va secouer, quoi. Et c'est ça, moi, qui me fait rire en tant que spectateur quand je suis ou lecteur.
Oui, puis tu mentionnes le convoyeur, ben veut pas. On découvre le héros au fur et à mesure des albums, mais on en vient à se dire, mais dans le fond, c'est le héros parce que c'est le personnage central, mais à quel point c'est vraiment même le héros de l'histoire? Je veux dire, au tome 2, on commence à se poser des questions un peu.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et puis, alors, sur Chronique diplomatique, par contre, là, c'est vrai que je me suis dit, j'aimerais bien faire des héros positifs. Qu'est-ce que ça serait un vrai héros positif comme moi, j'aurais envie de l'imaginer? Et je pense que le héros positif est forcément un héros naïf, parce que c'est quelqu'un qui va pas se laisser corrompre par l'univers un petit peu, par le réalisme, en fait. Donc, c'est forcément quelqu'un d'idéaliste. Et comment il va réussir à préserver son idéalisme face à un monde extérieur très pragmatique et très agressif vis-à-vis des vraies valeurs, on va dire. Donc voilà, et avec mon jeune ambassadeur là, un peu très positif et tout, bah voilà, j'essaye de voir est-ce que c'est compatible l'idéalisme, compatible avec le réalisme de la géopolitique par exemple. Et comment tu peux rester quelqu'un de valeur dans un environnement qui les piétine. Bah, donc voilà, c'est des petits. En fait, chaque album essaye de répondre à des questions que je me pose et auxquelles j'essaie moi-même de répondre en tant qu'être humain. Et dire, voilà, j'en suis là dans mon cheminement personnel. Donc c'est un peu des checkpoints. Chaque album est un peu un checkpoint de mon parcours philosophico, psychologico, je sais pas quoi.
Oui, puis de mettre en exergue, en fait, trouver des façons, on parle beaucoup des personnages, mais même dans les éléments que tu mets en scène ou dans les choix de juxtaposition, par exemple, si tu parlais de chronique diplomatique, il y a une séquence où d'un côté, il y a une opération militaire ratée qui se déroule, puis en parallèle, c'est des jeux parfaitement vides, protocolaires, consulaires, et de les mettre côte à côte comme ça, de les imbriquer, mais subitement, ça donne une portée additionnelle dans le fond. Donc, clairement, le choix scénaristique donne de la valeur argumentaire presque à ce qui est proposé aussi.
Mais oui, parce que en fait, il y a quelque chose de très très bizarre. Par exemple, l'entre-deux-guerres, donc avant 39-45, les gens vivaient comme toi et moi. Ils avaient leur petit stress de travail. Et boum, à un moment, t'as une guerre mondiale qui se déclenche, quoi. Et voilà, donc d'avoir ce petit contraste entre la petite vie protocolaire des petits. On a un problème de taille de drapeau. Comment on va faire pour fêter le 14 juillet, alors que le pays va basculer dans les émeutes quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard. Et voilà, d'avoir cette espèce de la petite fourmi humaine qui est vraiment au ras du sol à gérer ses petits grains de sable, alors qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une grosse botte et qui va écraser la fourmilière. Ça, c'est quelque chose pareil. Cette espèce de différence d'échelle, c'est toujours quelque chose qui m'amuse beaucoup à traiter, quoi.
Un peu comme dans Hedge Fund aussi, au bout du compte, où des actions égoïstes du personnage principal, finalement, ont un effet papillon, qui est parfois
Ouais,
assez
voilà, c'est
imposant
ça.
aussi.
C'est ça. C'est toujours d'essayer de relier l'infini grand, infiniment grand à l'infiniment petit, et voilà, avoir des. Encore une fois, parce que en tant que scénariste, j'ai l'avantage sur le lecteur d'avoir un peu le tableau dans son ensemble. Donc, je vais lui raconter des micro-événements qui vont, si je fais bien mon travail, comment dire, le passionner. Et puis, à un moment, bah, tous ces fils-là que j'ai tricotés un par un, hop, vont se réunir pour faire une toile, quoi. Et là, il fait, ah, ok, c'est ça l'histoire, en fait. Donc, c'est ça qui me passionne, quoi.
Et j'imagine que la difficulté dans ce contexte-là, c'est quand on se lance sur une série, on nous parle de deux tomes, trois tomes. Finalement, Hedge Fund, par exemple, c'est sept tomes. À quel moment, dans le fond, on a su, OK, j'ai sept tomes pour tisser cette toile-là, pour amener mon personnage d'un point A au premier tome, au point Z au dernier tome, puis avoir justement toute cette évolution qui, quand on lit album après album, dans le fond, ça se fait de façon subtile, mais finalement, le personnage, il subit quand même des transformations importantes au fil de tout ça. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, il faut avoir conscience que l'éditeur va nous donner un fil d'arrivée à 3, à 4, à 7.
Alors, j'ai la chance de travailler avec Lombard là-dessus, qui est un éditeur incroyable. Moi, enfin, je bénis le ciel de travailler avec eux. C'est l'éditeur dont on peut rêver quand on est jeune auteur. C'est-à-dire, en fait, à chaque bouquin, il me demande de combien de tomes tu as besoin pour ton histoire. C'est, voilà, il y a comment dire, il y a des rapports qui peuvent être très compliqués avec les éditeurs, qui auraient des vues court terme. Et qui se disent, OK, si le premier tome s'est pas vendu, on va arrêter, on va tirer la plug, et puis c'est fini. Et donc là, c'est très difficile de développer soit des univers, soit des grands cycles d'histoire, parce que à tout moment, ça peut mal se passer. Mais il faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'éditeur qui est en jeu. À partir du moment où un tome 1 a fait un flop, même pour les auteurs, c'est pas évident de se dire, OK, on va repasser un an de travail pour continuer une série n'a pas beaucoup de potentiel. Donc, ça peut aussi une décision conjointe. C'est pas forcément le méchant éditeur non plus. Ça peut être une décision conjointe d'arrêter la série. Quelle que soit sa qualité, encore une fois, la qualité n'a rien à voir avec les ventes, forcément. Mais pour revenir à ta question sur Hedge Fund, avec Patrick, Philippe et donc le Lombard, dès le début, on a eu l'idée de traiter les subprimes en trois tomes. Donc, on a signé pour faire les trois tomes qui constituaient un premier cycle. Mais avec Philippe, on s'est tout de suite dit, OK, option A, la série fonctionne pas si bien que ça. Eh ben, on refait nos trois tomes, on raconte ce qu'on a envie de dire. On trouve ça important, on va aller au bout. Mais si ça marche bien, moi j'aimerais bien parler de géopolitique et notamment de finances qui impacteraient l'alimentaire et des famines dans le monde à l'autre bout de la planète, décidées à Wall Street par exemple ou à Londres. Et j'aimerais bien montrer aussi comment la finance pourrait détruire la civilisation si on l'encadrait pas ou si on la laissait un peu aller tout droit dans le mur, quoi. Et comme tout est lié, et c'est encore une fois, c'est pas un risque qui est du domaine du passé, hein. Si le flux d'argent commence à se tarir ou la croyance des gens dans l'argent commence à diminuer, c'est difficile, hein, avec tout l'argent qu'ils ont injecté ces derniers temps. J'ai du mal à comprendre comment le système tient encore debout, mais je sais pas. Je
Donc,
sais pas sur
on
Hedge
pense
Fund.
vraiment en termes de cycle. Dans le fond, c'est probablement la même chose pour tes autres séries, que ce soit Convoyeur, Chronique et Hérault. On se dit, ben OK, soit c'est un album, j'essaie de raconter, mais je pense à la possibilité d'un deuxième, d'un troisième. Soit c'est un cycle, mais dans le fond, je me garde des armes additionnelles si jamais finalement la série marche suffisamment pour que tout le monde, éditeur, dessinateur, scénariste, ait envie de continuer à s'investir là-dedans. Et que si jamais ça marche pas, ben que le lecteur qui a embarqué ait quand même quelque chose de satisfaisant aussi à l'arrivée, dans le fond.
C'est exactement ça. Alors, ça demande un jeu intellectuel aussi de se dire, OK, je prévois à 3 tomes, à 5 tomes, à 7 tomes, quand est-ce que je vais conclure mes cycles, quand est-ce que je vais conclure mon histoire. Par exemple, sur Le Convoyeur, j'étais parti au début sur une trilogie, mais dès le début, on a vu qu'il y avait un vrai engouement pour la série. Donc là, très vite, l'éditeur nous est revenu, dit, écoute, ton tome 3, il est peut-être un peu serré, ça te dirait pas de le diviser en deux? Et de faire 2 fois 54 plutôt qu'une seule fois 54, quoi. Et on a trouvé que c'était une super idée. Voilà, le succès nous a permis cette liberté-là, qui m'a permis de développer d'autres aspects de l'univers. On a reparlé tout à l'heure de cette histoire d'auberge. Bon, bah, grâce au fait de diviser le tome 3 en 2 tomes, eh ben, voilà, j'ai pu rajouter un peu de liant à tout ça, quoi. Et donc, ça, c'est un luxe qu'on a quand la série fonctionne. Si la série ne fonctionne pas, bah, ça arrive, hein. Et puis, bah, dans ce cas-là, on essaye de faire ça le plus propre possible. Ce qui a été le cas avec Psycho Paris, qui est sorti en début d'année dernière, qui était une série pour laquelle l'investissement de Corentin, avec qui je fais Goblin, ça a été total. Il a fait un travail absolument fabuleux de reproduction de Paris dans un style un peu manga. C'est vraiment magnifique.
Ça faisait penser à Kill Bill presque à certains
Oui,
moments, là.
complètement, complètement. C'est fun, c'est marrant et tout. La série a vraiment fait un flop. Enfin, et donc, malgré tout, on avait des lecteurs depuis 10 ans, qui nous demandent en permanence, mais quand est-ce que vous avez terminé la série? Parce qu'il n'y avait qu'un seul tome qui n'était pas eu. Donc là, on a trouvé une façon plus ou moins élégante de le faire, c'est-à-dire, OK, on va sortir un seul gros livre avec le tome 1 et puis l'équivalent d'un tome et demi en plus, intégré pour faire une sorte de compilation, voilà, de l'histoire complète en un seul album, de façon à pouvoir conclure ça, quoi. Parce que sinon, c'est frustrant. Par contre, d'avoir, surtout la fin du tome 1, il y avait les deux personnages principaux qui étaient dans une difficulté totale, le classique cliffhanger, c'était vraiment suspendu à un toit de Paris. Et tu ne peux pas les laisser comme ça, quoi. Donc, il fallait vraiment terminer cette histoire, quoi.
Oui, puis en fait, dans certains cas, bien, ça donne plus de place pour le scénariste, pour développer justement l'univers, aller chercher des dilemmes qui vont motiver un peu son développement, bâtir ses héros, etc. Et j'imagine à travers tout ça, bien, chaque série, dans le fond, tu l'as dit, on adapte le ton en fonction du dessinateur, aussi en fonction de la dynamique de travail que tu as avec. Et j'imagine que dans le cas, par exemple, de La Forêt du Temps, bien, il faut l'adapter aussi au public, parce que la plupart de tes séries, c'est plus des séries adultes. Et là, subitement, oups, il y a une série tout public aussi qui apparaît dans ton cursus. Est-ce qu'on adapte un peu la méthode, le ton, on garde différents
Ça,
paramètres
ça a
en tête?
été, alors oui, ça a été un effort, mais je dirais plus pour Matteo, qui avait naturellement un style assez hybride, manga, comics, donc je dirais peut-être 16 ans et plus. Dès le début, on a défini que ça devait être une série jeunesse, La Forêt du Temps. Que moi, je voulais faire vivre à mes gamins, qui ont 10 et 11 ans, une vraie aventure. Ils lisent Dragon Ball, ils lisent des tas de mangas. Je voulais pouvoir les amener aussi à la BD franco-belge. Et comme moi, j'avais adoré les Spirou quand j'étais plus gamin, quoi. Donc, voilà, comment faire une vraie aventure avec qui les appelle eux. Et donc, oui, effectivement, au niveau de la complexité, en fait, c'est pas tant la complexité qui doit être, comment dire, un peu écrasée. Parce que moi, je crois que les enfants sont très intelligents et comprennent des tas de choses. Donc, voilà. Je pense que même, il n'y a rien de plus gratifiant que de relire une BD que tu as lue quand tu avais 10 ans et te dire, OK, j'avais pas tout compris. En fait, il y avait plus que ce que j'étais capable de saisir à l'époque. Et donc, dans La Forêt du Temps, j'ai fait le même travail que pour le Convoyeur. La Forêt du Temps, c'est une compile de tous les mythes qui ont animé l'humanité depuis l'origine. Ça semble grandiloquent dit comme ça, mais il y a eu le même travail de mois de recherche sur tous les mythes et trouver un peu les points de convergence, que ce soit en Amérique du Sud, en Chine, dans les pays nordiques, et voilà, les panthéons, voilà, comment tu trouves les trinités, et d'avoir des motifs récurrents par couche, et avec une histoire voilà, qui est liée un peu à l'alchimie aussi, mais tout ça étant, on va dire, repoussé loin derrière le décor. Et donc, ce qu'on va voir, c'est un groupe de petits héros qui vont vivre leurs aventures, qui vont découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils étaient un peu prisonniers de leur petit village au centre de la forêt, et qui vont en sortir, parce que le temps commence à les rattraper, ils doivent trouver une solution. Et donc, ils vont découvrir l'humanité, puis ils vont sortir une fois au Néolithique, ils vont sortir une fois dans la Grèce antique, ils vont sortir, voilà, parce que cette espèce de village, une sorte de, est au cœur de l'histoire de l'humanité. Donc voilà. Et indépendamment de l'envergure du projet, il faut le faire vivre à hauteur d'enfant. Donc, ça veut dire être avec nos personnages et avoir leurs émotions et comment eux vont découvrir tous ces événements-là et tisser leurs liens avec leur culture d'enfant aussi. Donc voilà, mais c'est un travail qui est passionnant à faire. Et puis, je fais valider par mes gamins, voir si ça leur plaît, s'ils trouvent ça suffisamment excitant, s'ils comprennent. Et puis, les retours qu'on a eus étaient vraiment enthousiasmants d'ailleurs. Les
Puis,
gamins
Joey,
comprennent
j'ai l'impression
beaucoup
de
de
jouer
choses.
avec des codes aussi. Dans ce cas-là, tu parles du conte. Dans le code du convoyeur, on est dans le récit post-apocalyptique, peut-être un peu même le western, je trouvais. Les trucs un peu espionnage et autres. Dans le fond, on retrouve un peu des influences de récits un peu codifiés selon tes séries comme telles. Donc, ça j'imagine qu'il y a un plaisir aussi, quand on parle de création, de construction de monde, d'aller t'inspirer de codes de genre littéraire, puis d'intégrer, de voir comment tu peux créer des attentes, puis après ça, les déconstruire aussi, j'ai l'impression, au fil du
Exactement,
récit.
parce que l'intérêt de partir sur, on va dire, de la littérature de genre ou des univers de genre, c'est que les codes sont déjà compris par le lecteur, donc on gagne énormément de temps. Très vite, il voit, oh, ça va être une sorte de conte dans un univers merveilleux. Ok, il a déjà une image dans la tête. Et à partir de cette image-là, ah ben voilà, on va pouvoir modifier des paramètres. Ça me simplifie le travail. Plutôt que de créer, j'en sais même pas si j'en serais capable, de créer un nouveau genre, en fait. Partir dans l'heroic fantasy, dans Goblins, et en faire un miroir inversé de l'heroic fantasy de Tolkien, ça, c'était, par exemple, voilà, c'est un, comment dire, une mécanique classique de la parodie. Et c'était très marrant de jouer avec ça. Le convoyeur, on est effectivement dans une sorte de Mad Max, mais sans métal, donc sans véhicule. Donc, ça rajoute quelque chose. Voilà, tu changes un ou deux paramètres et l'histoire et l'univers peuvent changer du tout au tout.
OK, on revient à faire ça. C'est un peu on vient de faire le cercle un peu, on retourne à l'idée de départ parce que, au bout du compte, l'idée de départ peut être un événement, peut être une période, peut être un élément, mais peut être un code qu'on a
Tout
simplement
à
envie de
fait.
détourner puis qu'on sait que ça va allumer aussi une fibre chez le lecteur. Puis, au bout du compte, ça nous ramène aussi aux scénaristes, aux dessinateurs qui ont été aussi des lecteurs avant d'être des
Exact.
créateurs.
Il y a,
Puis
on a un
qui.
petit côté, on a un petit côté cartographe, c'est-à-dire qu'on explore, on se dit, OK, le territoire de l'Heroic Fantasy, OK, il a été codifié de là à là, au nord, au sud, au nord, il y a Game of Thrones, au sud, il y a Tolkien. Donc, tout ça, voilà, il y a Elric, le nécromancien, il y a des choses qui ont été des territoires qui ont été très, très ancrés dans l'imaginaire collectif. Et puis encore des petits territoires explorés aux frontières ou des liens à faire entre tiens, cette combinaison, tiens ceci plus cela, ah bah tiens, ça n'a pas été fait. Donc voilà, et de temps en temps, bah, un nouveau mix ou un nouveau territoire peut arriver. Et quand ça arrive, c'est cool. Là, je redécouvre pas mal, par exemple, Jack Vance, qui était un auteur, je crois, des années 50, et que j'avais lu quand j'étais ado, mais qui m'avait pas plus enthousiasmé que ça. Et là, je le relis et je me régale. Donc,
Tout à fait, les quatre tomes, le Pnum, le Wank, le Chasse, le
alors,
Dirdir,
j'en suis
c'est.
pas encore là. J'en suis à l'histoire de Riddle le voleur ou je sais pas quoi. C'est trois
OK.
petits tomes et d'une inventivité. Ah, oh, c'est fou. C'est coloré, c'est vivant, c'est très très brillant, c'est très bien écrit aussi.
Et ça
Donc
peut être une assise d'un éventuel Tristan Rouleau en science-fiction qui va s'inspirer de ça.
voilà, peut-être que ça va donner une petite couleur supplémentaire à certains de mes récits, voilà, où je vais prendre comme une note, t'es emprunté une note à quelqu'un en disant ah, j'ai bien aimé ça. Et panacher un peu mes futures créations, je sais pas.
Et d'ici là, bien évidemment, pour ceux qui ne te lisent pas déjà, bien, peuvent le faire. Tu l'as mentionné, on fait à peu près 4 albums scénarisés annuellement, plusieurs séries, si je vois juste depuis 2018, donc on parlait de Psycho Paris, Harald, Hedge Fund, Irons, Rome Héritage, Le Convoyeur, Chronique diplomatique, Crypto-monnaie, La Forêt du temps, sûrement d'autres à venir aussi. Tristan Rouleau, merci beaucoup.
Ben, c'était un plaisir, merci à vous.
Alors voilà, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et à la semaine prochaine.